Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de tech, internet et gadgets. Vous connaissez maintenant la promesse, hein, on suit tout ce qui se passe dans le domaine, on vous fait un résumé clair et accessible. Dans cet épisode, qui pourrait s'intituler presque « Business as usual », on va une nouvelle fois parler des mastodontes, des grandes entreprises de la tech, qui affichent des résultats au format « Au-delà, c'est le soleil ». Et puis pourtant, certaines d'entre elles ont des nouveaux challenges à relever dont elles voudraient bien se passer, notamment Apple. Vous l'avez compris, je suis Guillaume Vendée, votre hôte pour cet épisode, et je suis accompagné, c'est quelque chose quand même, hein, du chef de l'Internet. Salut Corben.
Salut Guillaume, ça va?
Ça va très très bien, très très bien. Merci Corben de te joindre à moi. Et puis, n'arrêtez pas immédiatement l'épisode si vous n'écoutez le Rendez-vous Tech que pour entendre la voix de Patrick, parce que oui, vous l'avez compris, il est de retour. Salut Patrick.
Bonjour à tous et à toutes. J'essaye de prendre une voix un peu suave, tu sais, pour chatouiller les oreilles des auditeurs. Oui, bonjour, merci de me recevoir dans cette émission, Guillaume. Je suis là en touriste, hein, moi, aujourd'hui.
C'est ça, t'es invité dans ta propre émission.
C'est le concept, quoi. C'est un petit nouveau qu'on va faire intervenir dans le podcast pour voir s'il y a des choses précises. Moi, j'ai la quintuple pression à ce niveau-là, Patrick, tu vas tout nous raconter, mais j'ai la quintuple pression, imagine, pour moi, c'est... je parle pas de la bière, hein. Il y a le chef de l'Internet qui en plus stream, il y a le maître des podcasts, je veux pas massacrer ton émission, et en plus, tu as des enfants à gérer, dont un malade, ça m'a l'air d'être compliqué.
Oui, c'est pas évident, hein. Alors d'abord, merci à tous pour votre patience pendant ce petit congé paternité qui est en train de toucher à sa fin. La raison pour laquelle je suis dans l'émission aujourd'hui en tant que touriste, c'est que j'ai suivi l'actu un petit peu, mais j'avais pas le temps de préparer consciencieusement comme il le faut. Donc j'ai laissé encore les clés à Guillaume qui a très gentiment repris la gestion de tout ça. Et donc j'en profite pour remercier Guillaume, Jérôme, l'autre Guillaume, Marion, enfin tous ceux qui ont participé pendant mon absence. J'espère que les épisodes vous auront plu. Et oui, ça se passe pas trop mal, sauf que le grand est malade et la petite a des problèmes de digestion. Donc quand elle mange pas, elle pleure parce qu'elle a faim. Quand elle mange, elle pleure parce qu'elle a mal au bide. Le petit est un petit peu malade et un petit peu compliqué à gérer, comme il a toujours été. C'est sport, hein. Je te confirme.
Les nouveau-nés, ça mange pas que des burritos, Patrick.
Ah merde, c'est ça. C'était donc ça le problème. Je me disais, en fait, si j'enlève la sauce piquante du burrito, peut-être que ça devrait aller. Mais en fait,
le wasabi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est un petit peu compliqué, effectivement, mais il y a quand même un point positif dans tout ça. Le fait que j'ai maintenant deux enfants adorables, plus ou moins adorables, est évidemment un point positif. Mais l'autre point positif que je voulais évoquer et te remercier doublement, Guillaume, du coup, c'est que j'ai pris évidemment un petit peu de recul sur les émissions. Et en écoutant les émissions, je me suis rendu compte à quel point elles sont précieuses pour les gens qui aiment et qui suivent la tech. Peut-être qu'on en reparlera dans la pause Patreon en milieu d'émission, mais tu sais, j'ai tellement la tête dans le guidon tout le temps sur le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, j'ai tendance à oublier à quel point, quand on n'a pas la veille en permanence tous les jours et quand on a d'autres choses à faire, quand on n'a pas de temps à perdre à lire des centaines d'articles, c'est utile d'avoir un résumé comme celui-là. Et je suivais de loin, genre je voyais quelques articles, ok, il y a ça, et j'avais pas besoin de m'en préoccuper. Je me disais, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai le rendez-vous tech mardi après-midi et tout va m'être expliqué dans une ambiance sympa en plus. Donc vraiment, ça m'a remontré à quel point l'émission est cool et à quel point les podcasts peuvent être cool et utiles. Donc merci beaucoup Guillaume et tous ceux qui ont pris en charge tout ça. Ça m'a redonné un petit peu de perspective. Mais j'en reparlerai dans la partie Patreon encore un petit peu.
Bah écoute, merci beaucoup. C'est vrai que le format, en fait, il condense plein de choses. Et puis, je pense qu'on essaye aussi d'avoir un regard éclairé qu'ont pas forcément d'autres médias. Et bon, voilà, le format audio, quand on a des enfants, on sait que c'est très propice.
C'est sûr.
Corben, de ton côté, bon, tu connais bien la gestion des enfants, on va pas refaire le tour du sujet, mais juste, moi, je voulais te faire réagir, Corben, un petit peu, parce que je crois que tu n'as pas eu l'occasion de partager ton sentiment sur les AirTags. Tu sais, moi, je suis toujours un petit peu fan d'Apple, et je sais que Patrick aussi, même s'il ne le dit pas autant que moi. Est-ce que tu as suivi un peu les annonces, la présentation des AirTags? Est-ce que tu en as commandé, toi?
J'en ai pas commandé, non, mais j'ai la même semaine, en fait, j'ai perdu mon portefeuille, je crois, ou
c'est
mes clés. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion. Mais non, bah, en fait, je trouve ça cool. Après, voilà, j'ai déjà vu tellement, si tu veux, de systèmes fonctionner de la même manière, avec plus ou moins de succès. J'ai déjà eu des clones d'AirTag avant que ce soit des AirTag, quoi. Mais bon, là, le fait qu'il y ait la flotte iPhone, Apple, enfin, la flotte Apple qui permet de remonter les infos. Ça fait quelque chose d'assez puissant quand même en termes de géologue, quoi, par rapport à d'autres types d'appareils comme ça, Bluetooth, qu'on retrouve jamais finalement, puisque personne ne les utilise et personne ne les applique. Donc, en soi, pour moi, c'est pas une innovation de fou techniquement, mais par contre, c'est super pratique, quoi. En objet de tous les jours, c'est le genre de truc que je pourrais acheter effectivement.
Moi, j'allais en acheter un, moi, ou plusieurs, et puis quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas s'en servir pour traquer ses enfants et savoir où ils étaient, bah, j'ai annulé mon achat. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, ces deux éléments. D'une part, le fait qu'il y a le réseau d'Apple, mais vous en avez parlé dans les épisodes précédents, je ne vais pas passer très longtemps dessus. Le fait qu'ils utilisent le réseau de manière sécurisée de tous les appareils Apple est hyper important, enfin de tous les appareils Apple équipés de ce réseau ultra-wideband, c'est hyper important parce que ça fait une sorte de réseau maillé dans l'Internet. Et vu le nombre d'appareils Apple, ça augmente de manière très significative les possibilités de retrouver ces appareils. Et l'autre élément, c'est cet élément de privacy by design, qui a d'ailleurs pas que des avantages et qui est peut-être poussé pas assez loin parce que, comme on l'a vu, certains se plaignent du fait que on peut utiliser ces appareils, ces AirTags, pour traquer quelqu'un pendant quelques jours. On n'a pas les détails précis, mais pendant quelques jours au moins, ce qui peut poser des problèmes, évidemment, notamment dans le cas de maris abusifs qui essayent de voir où sont leurs femmes et si elles sont bien là où elles sont censées être, etc. Ça peut être des vrais problèmes. Même si ça prend 2 jours ou 3 jours à sonner, ce petit AirTag, quand il est là où il n'est pas censé être, bah 2 jours ou 3 jours, ça peut suffire pour déjà commettre des méfaits. Mais d'un autre côté, il faut avouer qu'ils sont quand même hyper privacy by design à un point qui est surprenant. Le fait qu'ils soient assez intelligents qu'ils aient conçu le truc pour que l'appareil se signale s'il bouge alors qu'il n'est plus à côté du téléphone. On se demande ce que ça veut dire si on perd un truc dans un bus ou dans une voiture, ça va se mettre à sonner. Mais en même temps, si ça se met à sonner, c'est pas plus mal. Les gens vont le regarder et peut-être pouvoir le donner au conducteur du bus, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est des appareils assez intéressants dans leur conception. Mais pour mon cas, je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'usage spécifique.
Il y a eu beaucoup de retours, effectivement, sur les usages qui sont un peu parfois déceptifs. Alors, les alertes, a priori, arrivent assez vite. On en sait un petit peu plus maintenant, mais en gros, dès que tu reviens chez toi et qu'on t'a prêté, on t'a caché des AirTags dans tes affaires pendant quelques heures, quand tu reviens chez toi, ça remonte assez vite. Donc, a priori, ce délai semble être assez court. Finalement, dès que tu reviens à ton domicile, ça t'alerte. Mais,
d'accord. C'est dans le cas où tu as un iPhone ou un appareil Apple. Dans le cas d'un appareil Android, évidemment, ça ne fonctionne pas.
Si ça se sonné dans le bus, tu vas pas retrouver ton truc. Les mecs vont appeler des mineurs, ils vont faire sauter ton portefeuille. Méfie-toi quand même.
Non, mais peut-être qu'on peut faire une sonnerie qui dit « Je suis un AirTag, j'appartiens à quelqu'un, faites pas exploser. Ouais. » Peut-être, tu vois, ils ont un petit haut-parleur.
Ça en trompera peut-être certains. Dernière chose sur les AirTags, avant qu'on parle vraiment du petit sujet phare que je pensais qui serait le premier sujet de l'émission, juste sur les AirTags, j'ai vu un article passer qui me paraissait diablement intéressant et je me disais que c'était cool d'en parler ensemble. C'est que certains identifient les AirTags, certes évidemment comme des petits marqueurs de géolocalisation pour retrouver nos clés, mais aussi comme une première porte ouverte pour cartographier la réalité autour de nous et aider à la réalité augmentée. Oui, c'est vrai que dès qu'on parle d'Apple, on parle assez vite des projets de réalité augmentée sur lesquels ils sont tout à la fois prolixes et en même temps, ils gardent jalousement, j'imagine, beaucoup de secrets. Mais l'article décrivait, et la réflexion décrivait, un monde où la réalité augmentée pourrait être très, très facilement enrichie grâce à ces appareils, grâce à ces AirTags qui pourraient se multiplier et probablement des appareils du même type. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous aviez pensez, vous, de votre côté, quand vous avez vu ces produits, ou qui ferait écho à vos réflexions?
Non, moi, j'ai pas pensé en particulier
Attendez
à ça.
Attendez une seconde, il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Tu peux dire bonjour?
Bonjour.
Voilà, tu fais un bisou.
Bonjour.
Tu fais un bisou comme ça avec la main? Voilà. Ok, tu dis au revoir maintenant?
Au revoir.
Ok. Allez, tu peux fermer la porte, s'il te plaît, mon ange? Tu fermes la porte du bureau?
Fermer la porte des toilettes? Laisse okay. pas tranquille.
C'est, à tout à l'heure. Aussi... Je suis désolé.
C'est aussi épique que la conversation Zoom où on avait vu un politicien, je crois, avec son fils rentrer. C'est devenu le quotidien de tout le monde.
Oui, je suis désolé. Je pense qu'il fallait que je le laisse rentrer, sinon ça allait mal se passer.
Mais c'est bien, ouais. Comme ça, il s'est rendu compte. On parlait, ouais, Patrick, et puis j'interpellais Corben sur la cartographie pour la réalité augmentée que pouvaient représenter les AirTags. C'est une réflexion qui a commencé à pointer. Alors évidemment, c'est très futuriste, hein, c'est pas demain qu'on aurait ce type d'usage, mais c'était intéressant de voir que la réflexion pouvait être portée sur une utilisation autour de la réalité augmentée pour les AirTags.
Ouais, Corben, tout à fait. J'ai trouvé cet article que tu as tagué. tagué. cet article de Wired, hyper intéressant. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est très précis, mais ils font le lien entre l'existence maintenant des AirTags et le fait de digitaliser, de numériser la localisation physique de manière beaucoup plus intense. C'est-à-dire que ce que font les AirTags en parallèle, presque un effet secondaire de leur fonctionnalité première, c'est qu'ils indiquent la localisation très précise dans l'espace de certaines choses. Et je ne pense pas qu'en soi, ça soit une utilisation spécifique pour la réalité augmentée, mais c'est une première brique, peut-être une méthode, ou en tout cas une étape d'apprentissage pour Apple, pour commencer à mapper le monde réel en version numérique. Encore une fois, il n'y a pas d'application très spécifique dont il parle dans l'article, mais cette idée, cette connexion intellectuelle est intéressante à faire. Et peut-être qu'il y a derrière la tête des dirigeants d'Apple ce plan, ce jeu d'échecs à 60 coups à l'avance pour dire, bah, comme on a pris cette avance et on a cet avantage parce qu'on a commencé à travailler sur ces trucs-là, bah, on sera plus en avance sur l'étape suivante quand il s'agira de développer la réalité augmentée de manière plus poussée.
On met des AirTags dans les boîtes de céréales au supermarché pour que les gens se dirigent vers elles directement.
C'est ça. Il y a une boîte de Kellogg's en promotion juste à votre droite, à 3,50 m. Poussez votre bras dans cette direction et vous pourrez l'attraper. Les possibilités sont infinies.
Je suis convaincu qu'il y a plein de publicitaires qui peuvent s'emparer de ce genre de choses. Bon, il faut que ce soit un peu moins cher que 35 €, je pense. On va parler un petit peu des résultats parce que on est toujours un peu dans une période où les entreprises annoncent leurs performances financières. Alors en soi, on ne fait pas des analyses financières dans le rendez-vous tech, mais forcément, quand on suit la tech, c'est quand même intéressant de suivre et de prendre un petit peu le pouls de ces résultats parce que ça reflète aussi la santé de ces entreprises. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont extraordinaires pour principalement les GAFAM. Hein. C'est en fait une période de crise dans laquelle on est, évidemment crise sanitaire qu'on va pas redétailler, mais les entreprises tech s'en retrouvent même renforcées par rapport à cette crise sanitaire. Là où avant, elles survivaient bien, elles affrontaient bien les difficultés, là, elles s'en trouvent carrément renforcées. En gros, les résultats des GAFAM, c'est 1,2 trillion de dollars, donc c'est un millier de milliards de dollars. Ça représente plus 25% par rapport à 2020. Le point de repère, c'est en moins d'une semaine, les 5 entreprises gagnent plus ne font plus de ventes que McDonald's en un an, ce qui, moi, me paraît énorme. Et encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas ils gagnent de l'argent malgré la crise sanitaire, mais grâce à la crise sanitaire. Alors, on pourrait redonner les cas d'utilisation. Je pense que c'est pas nécessaire d'être exhaustif, mais évidemment, les gens se sont tournés vers Facebook pour rester en contact et divertis. L'écosystème Facebook, bien entendu. Les entreprises ont acheté massivement de la publicité auprès de Facebook et de Google, dont Alphabet est propriétaire, pour aider à cibler les gens qui sortaient plus de chez eux. Beaucoup de personnes ont préféré acheter des couches, peut-être Patrick, et des chaises longues chez Amazon plutôt que de risquer leurs achats de santé dans les magasins. Les entreprises se sont équipées de logiciels Microsoft, d'ordinateurs. Les ordinateurs portables, les Mac et les iPads d'Apple ont été des portes ouvertes vers le monde pour les gens qui ont été enfermés chez eux. Et donc, tout ça fait que la situation financière de ces entreprises est complètement dingue et complètement inédite. Ce qui n'est pas, du coup, alors évidemment, ça fait leurs affaires, puisqu'une entreprise est toujours ravie quand elle collecte beaucoup de revenus, mais ça tombe à une période où ces entreprises sont aussi sous le regard, j'allais dire malveillant, mais c'est quand même pas ce point-là, mais en tout cas, interrogatif des régulateurs, notamment aux États-Unis. Et on peut dire aussi que ça creuse fondamentalement les inégalités. Une porte ouverte pour être détestée et donc attirer le regard des régulateurs. Je sais pas, ça t'inspire quelque chose, toi, Patrick, des résultats aussi stratosphériques pour ces entreprises ?
Bah oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises et c'est la continuation de cette tendance dont on pensait qu'elle pourrait peut-être se calmer au bout de quelques mois ou d'un an. Clairement, c'est pas le cas. Ce qui est important de noter, c'est que beaucoup de gens parlent de la pénurie de composants et on peut avoir l'impression que ça, c'est dû, en tout cas que ça provoque une baisse de l'offre en fait. Et beaucoup de gens se disent « Ah ben, il n'y a pas assez d'ordinateurs offerts, il n'y a pas assez d'ordinateurs produits pour ce que les gens demandent. » Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils en ont produit moins. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que la plupart des gens l'ont compris, mais ce qui s'est passé, c'est que la demande a énormément augmenté, mais l'offre a augmenté aussi de manière significative. Et c'est juste qu'on a tiré les capacités de production à fond. Donc, en fait, ils fabriquent plus, ils font plus, sans même parler des questions... les résultats financiers des sociétés qui ont des bénéfices dus à des biens ou des services numériques, hein, qui sont évidemment extensibles sans limite, même les fabricants fabriquent plus. On l'a vu notamment avec le cas anecdotique peut-être de Sony, qui a vendu plus de PlayStation 5 qu'il n'avait vendu de PlayStation 4 sur la période équivalente au moment de la sortie de la console de génération précédente. Ils en ont vendu plus. Et pourtant, la pénurie est hyper importante pour cette machine, mais ils en ont quand même vendu plus. Donc, c'est bien un problème de demande qui est très, très, très forte et pas d'offre. L'offre continue à être forte. Donc, c'est un élément qui, je pense, est intéressant de noter dans cette analyse. Et puis ensuite, il y a effectivement ces décisions et ces procès qui sont en cours. Alors d'une part, un procès extrêmement important aux États-Unis entre Epic Games et Apple. On le rappelle, Epic Games reproche à Apple de limiter les possibilités de paiement pour les apps qui sont sur son App Store. Et ils sont obligés de payer uniquement par le système d'Apple et Apple prélève 30% au passage. On s'en souvient bien. Il y a en France, en Europe, le procès entre Apple Music et Spotify. Spotify avait porté plainte contre Apple pour pratiques monopolistiques également. Et l'Europe semble juger... Alors, c'est un cas un tout petit peu différent parce que Apple Music est une concurrence directe à Spotify. Apple n'est pas soumis à la commission de 30%, évidemment. Et Spotify reproche à Apple le fait qu'ils ne peuvent pas même dire aux utilisateurs qu'il y a un autre moyen de payer que celui d'Apple, ce qu'on peut tout à fait comprendre du point de vue d'Apple. Mais s'il y a un cas de monopole, eh ben peut-être que les règles ne peuvent pas être les mêmes. Et là, la Commission européenne semble indiquer que, effectivement, il y a un problème dans cette situation spécifique de concurrence entre Apple Music et Spotify et que donc il va falloir adresser ce problème. Ils ne disent pas exactement comment, mais c'est une décision absolument monumentale pour le début de cette forteresse Apple qui pourrait commencer à... Enfin, l'une des nombreuses forteresses qu'ils ont, hein, même si celle-là craque, ils seront encore en bonne position partout ailleurs. Et même sur celle-là, ça ne va pas non plus être la fin du monde. Mais la Commission européenne indique également qu'ils sont en train de regarder dans d'autres domaines, notamment celui du jeu vidéo, ce qui fait écho au procès américain entre Epic Games et Apple. Mais si jamais cette situation doit être réglée par Apple, c'est-à-dire s'ils autorisent Spotify à indiquer aux utilisateurs d'autres moyens de paiement que celui d'Apple, c'est... une conséquence absolument monumentale pour l'App Store, parce que évidemment ça ne va pas se limiter à Spotify. Alors, de l'autre côté, Apple dit « Oui, mais 99% des utilisateurs de Spotify n'utilisent pas le système de paiement. » D'une certaine manière, c'est vrai, Apple fournit ce service d'application à des gens qui ne payent rien du tout. Et l'autre, de l'autre côté, les autres payent non pas 30%, mais 15%, parce qu'au bout d'un an, quand on est abonné, la commission passe de 30% à 15% pour Apple, ce qui est vrai aussi. Mais il n'empêche, si la Commission européenne décide que Apple doit changer les choses et que les consommateurs perdent du pouvoir d'achat dans l'histoire, eh ben Apple va devoir changer les choses, au moins en Europe, mais on peut imaginer que ça sera répercuté ailleurs aussi. Donc c'est un gros, gros, gros moment dans la vie de, d'Apple, ça c'est certain.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est du côté européen, où il y a finalement les dossiers qui sont pris, j'allais dire, sur leur petit périmètre les uns après les autres. Donc, ils s'occupent effectivement d'Apple Music, Spotify dans un premier temps, mais ils vont par la suite parler des paiements avec Apple Pay, du jeu vidéo, de l'App Store. Ils savent qu'ils vont en parler, mais j'ai l'impression qu'ils prennent ce petit point de départ aussi pour prendre les choses par étapes, mais aussi parce que aux États-Unis, il y a quand même ce gros morceau qui, je pense, est assez emblématique de la distribution des apps chez Apple versus Epic. Et j'ai quand même l'impression que ça peut être cet arbitrage juridique aux États-Unis qui peut donner le là, bah, à la fois pour la distribution pour Apple sur plein d'autres sujets, mais aussi bah, pour toute la distribution des applications sur les stores en ligne. Corben, est-ce que tu penses qu'aux États-Unis, là, ce qui est en train de... En fait, le procès qui a commencé hier soir, au moment où on enregistre l'émission, qui est assez intéressant à suivre, parce qu'en plus, il y a des supports qui sont disponibles de présentation de chacune des entreprises, il y a des relais qui sont faits très régulièrement. C'est un procès qui va, à mon avis, s'avérer tout aussi intéressant sur l'aspect juridique, l'aspect tech, que ne pouvait l'être le conflit de Google versus Oracle. Peut-être même bien plus intéressant, d'ailleurs. Corben, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu en détail les premiers éléments de ce procès. Est-ce que tu penses que la forteresse Apple, au travers de la distribution de leurs applications, va se fissurer, ou est-ce que tu penses qu'ils vont en ressortir consolidés ? Je ne sais pas si tu es...
Je pense que ça va se fissurer, mais ce que j'ai vu, par exemple, ce matin, c'est juste pour faire un petit aparté, c'est que ça donne des idées à d'autres. Tu vois, il y a Steam qui a aussi ce problème-là de mettre des commissions avec... Enfin, il y a des clés, il y a plein de choses qui font que Steam, c'est un environnement assez fermé aussi pour... Enfin, en tout cas, un passage obligé, un peu comme Apple avec son App Store. Et il y a Humble Bundle qui justement porte plainte aussi contre Steam là-dessus, contre Valve en fait. Donc en fait, ça me rappelle ça, ce que j'ai vu ce matin, et je pense que ça va donner des idées en fait à plein d'autres, pour plein d'autres cas de mini Apple, tu vois, où c'est verrouillé, où ils ont des écosystèmes verrouillé avec des obligations de payer 30, 15%, etc.
Ben ça va même plus loin. En fait, ce système et ce niveau de commission est universel dans toute l'industrie tech et dans l'industrie du jeu vidéo.
Ouais.
Et on parle beaucoup d'Apple et de Steam, évidemment. Ça fonctionne exactement de la même manière du côté de Sony et de Microsoft. Du côté des consoles, parce que Microsoft vient d'annoncer qu'ils passaient leur commission sur PC pour les jeux à 12% au lieu de 30%, c'est-à-dire qu'ils suivent le modèle d'Epic Games, qui a ouvert son Epic Games Store pour faire concurrence à Steam. Par contre, Microsoft se garde les 30% sur console, même s'ils avaient visiblement considéré l'idée de passer à 12% sur console aussi. Mais ces écosystèmes sont à 30% partout. La différence, c'est que au niveau d'Apple, sur le marché des mobiles, quand on parle de la quantité de revenus pour les développeurs, l'App Store est totalement incontournable, mais... On en parlait au début de cette histoire. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui est un marché pour savoir si Apple y a un monopole. Si l'écosystème Apple est un marché en lui-même, bah évidemment, Apple a le monopole dessus. Si on considère toute la tech en général, peut-être moins, et certainement moins. Si on considère la tech et le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo est au centre de ces débats, bah Apple, pour le coup, n'a plus du tout le monopole. Mais si on prend les mobiles et uniquement, pas les nombres d'appareils installés, mais les revenus pour les développeurs, bah là, Apple a le monopole. Si on parle du nombre d'appareils installés, plus du tout, parce qu'Android, il y en a beaucoup plus. C'est très compliqué et c'est uniquement une question de cadre. Quel est le cadre dans lequel on veut regarder ce problème ? Et ça, ce sont les législateurs qui le feront, mais ça aura des conséquences énormes parce qu'aujourd'hui, Epic, enfin, est en train de dire, parce qu'il travaille beaucoup avec... avec Sony et avec Microsoft aussi sur leurs consoles, et ils rapportent beaucoup, beaucoup d'argent aux deux développeurs, enfin, pardon, aux deux constructeurs. Et ils disent, ah oui, mais pour Apple, c'est un cas particulier, mais pour Sony et Microsoft, c'est pas grave qu'ils prennent 30% parce qu'ils ont beaucoup de coûts de recherche et développement, ce qui n'a absolument aucun sens. Évidemment que Apple a aussi beaucoup de coûts de recherche et développement, donc c'est vraiment une question de cadre et de la manière dont on regarde les choses.
Parce que quand tu prends le truc, on va dire, un peu bêtement comme ça, tu te dis, bon, bah, c'est leurs outils, c'est leur écosystème. Si t'es pas content de leur commission, tu vas distribuer ton application autrement, tu vois. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est vrai que et le problème, c'est que si tu commences à faire une exception pour Apple en disant, bon, bah, Apple sont en situation de monopole, de monopole, etc., tu peux évidemment, ça fait un peu jurisprudence et tu peux l'appliquer à Microsoft, à d'autres, etc.
C'est ça.
Donc ça va foutre la merde bien au-delà d'Apple.
Et c'est en ce sens que la décision de la Commission européenne qui vient de tomber il y a quelques jours est extrêmement importante parce qu'ils ont dit clairement, même si Apple a encore 3 mois pour répondre, si je ne m'abuse, ils ont dit clairement, dans le cadre d'Apple Music contre Spotify, eh bien, clairement, les consommateurs souffrent de cette concurrence déloyale. C'est-à-dire que les consommateurs, au final, doivent payer plus qu'ils ne feraient si la situation était différente. Donc, Apple est en faute. Et c'est donc une première brèche concrète, réelle, qui s'ouvre dans cette chasse gardée d'Apple et qui peut, comme tu le disais, Corben, avoir des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème Apple, mais au-delà, sur l'ensemble de ces écosystèmes. Et on pourra même faire un épisode entier là-dessus, mais ça pourrait avoir des conséquences très importantes parce que certaines sociétés comme Apple ont d'autres relais de revenus et de croissance. D'autres sociétés comme Sony, par exemple, récupèrent la majorité de leurs revenus, je pense, par ces commissions qu'ils ont dans le store. Donc pour eux, c'est beaucoup plus problématique s'ils doivent baisser la commission de 30 à 10-12%. Si ça va jusque-là, ça serait très problématique. On n'y est pas encore.
D'ailleurs, je vous invite, si le sujet vous intéresse et que vous voulez l'approfondir, il y a le Washington Post qui fait un très bon relais, presque au fur et à mesure, heure par heure, de ce qui se passe dans ce procès. C'est assez intéressant à suivre, mais surtout, ils mettent à disposition des documents dont les présentations des deux parties prenantes, les présentations d'ouverture d'Apple et d'Epic, qui sont très accessibles. Ce n'est pas du tout du charabia juridique. C'est évidemment de la communication. On est au niveau d'une keynote. C'est très intéressant même de voir dans l'esthétique des slides, de voir qu'il y a vraiment deux parties prises. Il y a Apple et Epic qui ont évidemment leur manière de communiquer qui est très différente et qui jouent au jeu des arguments. C'est bien normal, c'est ce qui va se passer durant tout le procès, des arguments qui vont dans le sens de leur position. Et ce qui est assez déroutant, c'est que finalement, quand on suit les deux présentations, on peut se reconnaître dans chacune des présentations. On peut avoir véritablement un sentiment de trouver qu'il y a une injustice pour Epic et en même temps beaucoup de légitimité pour Apple, tout au travers des slides. Et c'est effectivement toute la difficulté de ce procès. Et c'est pour ça que l'enjeu de départ, c'est de définir le périmètre dans lequel s'inscrit ce conflit pour qu'on puisse trouver quelque chose qui soit un arbitrage qui convienne à tout le monde.
On est content de ne pas être juge.
Comment ? Pardon ?
C'est pour ça qu'on est content de ne pas être juge.
Exactement, exactement.
C'est
compliqué. Parce qu'autant pour Apple Music et Spotify, on peut avoir un avis assez rapide, je trouve, tous autant qu'on est, de dire il y a quand même quelque chose d'un peu abusif et qui ne va pas à l'encontre de l'ouverture de la concurrence. Et en même temps, sur tout le reste, ça me paraît très compliqué. Dans le cadre de ce procès, il y a aussi des choses qui sont... il y a un peu dans la cour d'école, il y a les deux élèves qui se font disputer par le surveillant ou par le maître et il y a les autres copains autour qui sont pointés du doigt parce qu'ils ont assisté au truc, etc., qui se prennent les remarques aussi par rebond. Tu parlais, il y a Microsoft notamment. Effectivement, il y a des documents qui montrent que Microsoft avait des stratégies par rapport à Xbox de réduire la taxe, le prélèvement de 30% à 12%. La commission, merci. Il y a effectivement d'autres infos qui touchent directement Apple et Epic, notamment le fait qu'ils avaient envisagé un abonnement commun Fortnite, Apple TV+, et Apple Music, donc qui montrent qu'il y a encore 2 ans, ils envisageaient un avenir radieux en bossant main dans la main. Et on voit aussi qu'il y a Sony qui affiche certaines conditions très compliquées pour le crossplay. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de tous les
fonctions. On en parlera dans le rendez-vous,
j'imagine, voilà. Tu le referas dans le rendez-vous jeu. Mais il y a tous ces échos de ceux qui ne sont pas directement concernés par le procès qui sont intéressants à suivre aussi, du coup.
Tout à fait.
Nul doute qu'on reparlera de ce sujet dans de futurs épisodes. Patrick, est-ce que tu voulais faire un petit clin d'œil pour tes soutiens sur Patreon.
Oui, bah écoute, c'est vrai que j'ai bon, comment dire, j'ai des couches à acheter, j'ai des biberons à acheter, et la manière dont vous pouvez m'aider... Non, au-delà de ça, en fait, vous savez que ce genre d'émission à produire, à réaliser, c'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup de temps, et ce qui prend beaucoup de travail et beaucoup de temps mérite, je pense, j'espère, si vous appréciez ce travail et ce temps passé, une rétribution financière, souvent. Alors, on est dans une situation qui est extrêmement précieuse dans le Rendez-vous Tech, et dans ces podcasts, c'est qu'on ne, on peut proposer les émissions sans obliger les gens à payer. Ça, c'est une chance, je pense, mais ça veut pas dire que ça veut dire quand même que si personne ne paye, c'est un petit problème. Et du coup, j'ai un système qui s'appelle Patreon, que vous connaissez sans doute parce que j'en parle régulièrement, qui permet aux auditeurs de soutenir l'émission. Et vous connaissez le système, donc je ne vais pas repasser dans tous les détails. Mais ce que j'aimerais resignaler, comme je le disais en début d'émission, c'est que je pense sincèrement, que cette émission vous rend service. Si vous l'écoutez régulièrement, plusieurs fois par mois, je pense que cette émission vous rend service et vous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que nous, on passe énormément de temps, des heures et des heures chaque semaine, à tout lire, à tout écouter, à tout comprendre, à réfléchir aux problématiques. Parfois, elles sont très compliquées et on peut avoir une idée en première lecture et puis se rendre compte ensuite que les choses sont plus difficiles à cerner que ça. Et en plus de ça, il y a tout un tas de news à défricher. Certaines sont importantes, certaines moins. Il faut savoir faire la différence. Bref, c'est un vrai travail qu'on fait pour vous, en fait. Et du coup, ce qu'il vous reste, c'est simplement à écouter une heure d'émission sympathique, j'espère. En plus de ça, on vous fait passer un bon moment, ce qui fait que vous avez envie d'écouter l'émission et que du coup, vous, par là même, vous avez toutes les informations nécessaires sur la compréhension de la tech, qui est tellement importante, comme on le dit souvent, parce que ça module absolument tout dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme le disent certains la tech est absolument essentielle. Et du coup, le travail qu'on fait dans cette émission, j'espère, est un travail qui a une valeur pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier, d'écouter, d'apprendre tout ce qui se passe dans la tech. Vous avez juste besoin de vous dire « Ok, j'aurai le rendez-vous tech mardi et donc je comprendrai tout. Tout le reste, pas besoin de m'en préoccuper. » Et ça, c'est précieux, je crois. J'espère que c'est précieux pour vous. Si c'est précieux pour vous, j'espère que vous pourrez lui consacrer 1 euro, 2 euros, quelque chose comme ça, le prix d'un café. Est-ce que ce travail vaut pour vous le prix d'un café? Si c'est le cas, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 secondes, bon, j'exagère, mais 2 minutes de s'abonner et vous devenez partie prenante de cette émission, vous contribuez à cette émission et surtout, vous récompensez le travail assidu qu'on fait semaine après semaine, veille après veille, pour vous amener cette émission. Donc, patreon.com/rdvtech, si c'est le cas, j'espère que vous ferez ce petit effort. Parce qu'en plus, ça m'aide à payer les couches et les biberons accessoirement. Merci à tous ceux qui le font déjà, en tout cas, patreon.com/rdvtech.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va passer ensemble aux news et rumeurs. Juste avant de dérouler notre conducteur ensemble, j'aimerais bien vous entendre aussi. Écoute, le contexte est rêvé, Patrick. J'ai un podcasteur devant moi et on a appris que Apple Podcast, dans la présentation du printemps, là, allait proposer des formats payants, en tout cas pour les podcasteurs qui le souhaitent. Spotify également, on parle de l'affrontement Apple Music et Spotify, il va se faire aussi dans les podcasts. Est-ce que tu as un regard là-dessus sur la proposition de valeur qui est faite par Apple et Spotify pour les podcasteurs, justement?
Oui, évidemment, comme vous en doutez, j'y ai réfléchi. Alors, je peux vous dire, sans dévoiler de secret de secret de fabrication, d'industrie, que la transition chez Apple est un peu compliquée d'un système à l'autre. Ça va être réglé bientôt, j'espère, mais moi, je suis dans une situation un petit peu spéciale. Mais dans tous les cas, c'est vrai que au début des années 2010, je parlais avec les gens d'Apple et ce que je leur disais, c'est que j'espérais qu'ils donnent accès aux podcasteurs à la carte bleue des auditeurs qui était déjà enregistrée dans leur système chez Apple. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auditeurs de podcasts qui avaient déjà une carte bleue enregistrée dans le système d'Apple. Alors, quand je dis qu'ils donnent accès, c'était pas qu'ils nous donnent les codes pour qu'on puisse retirer de l'argent. C'était qu'ils permettent, qu'ils donnent la possibilité aux auditeurs de s'abonner justement exactement comme ils le font maintenant, presque 10 ans après cet espoir qui avait été exprimé.
Et que ils ont attendu que tu fasses 2 enfants pour répondre.
C'est ça, voilà, exactement. Et du coup, c'est évidemment un moment important parce que encore aujourd'hui, Apple et l'App Store, enfin comment dire, l'application podcast, malgré son fonctionnement que moi je trouve assez médiocre, l'application podcast représente quelque chose comme, j'ai plus les chiffres exactement, mais je crois que c'est entre 30 et 40% des auditeurs de mes émissions. Donc c'est quand même très significatif. Et si 30 à 40% des gens qui ont un moyen simple de s'abonner au podcast, j'imagine que certains d'entre eux le feront, j'espère en tout cas, et certains qui n'étaient pas déjà abonnés par Patreon. Alors c'est vrai que depuis les années 2010, il y a Patreon qui est arrivé et ça a changé un petit peu la donne. Aujourd'hui, je me précipite moins sur ce truc d'Apple, mais je vais très sérieusement évaluer la chose. Ça sera un peu compliqué parce que ça rajoute du processus de production, ce qui pour une personne quasiment seule est évidemment toujours, je suis en train de chasser la gestion de la production aussi optimum que possible. Donc, je ne suis pas certain de comment ça va se passer. Et puis, ça n'aura pas exactement les mêmes récompenses, contreparties que sur Patreon. Mais peut-être que ça vaudra le coup pour certains qui sont auditeurs des émissions et qui utilisent l'application podcast. S'il leur suffit, quand ils écoutent leur podcast, d'appuyer sur un bouton pour s'abonner et envoyer quelques euros par mois au podcast qu'ils apprécient, je pense que ça peut avoir une conséquence importante. À voir maintenant comment ça peut se mettre en place. J'y réfléchis très sérieusement et j'y travaille très sérieusement. Moins sur Spotify, qui représente une part beaucoup plus réduite de mon audience. Donc, c'est vraiment, je ne veux pas multiplier les systèmes. J'ai Patreon qui est le principal, évidemment, et que je vous encourage à aller visiter si vous écoutez cette émission. Mais peut-être que du fait de l'omniprésence d'Apple, je regarderai de leur côté. Les autres, je suis moins sûr. Parce qu'après, il faut uploader les épisodes sans pub, il faut différencier les flux, etc. C'est un petit peu compliqué à gérer quand même. Donc, ça vaut le coup uniquement si ça représente une part significative de l'audience, on va dire. Dans mon cas, en tout cas, quand on est un petit artisan du podcast comme moi.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, mis à part la particularité de Spotify avec le monde du podcast, qui est grandissant mais qui n'est pas encore très représentatif. On pourrait faire beaucoup d'échos sur les échanges qu'on vient d'avoir sur la concurrence qui a lieu entre Apple Music, Spotify et le choix des développeurs pour distribuer leurs applications. Finalement, tout ça est très cohérent. Du coup, Corben, ultime question par rapport à ce podcast. À part pour soutenir Patrick et accéder au contenu exceptionnel qu'il y aura derrière le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu et toutes les émissions Frenchpin, est-ce que tu es prêt à activer des paiements, achats in-app dans Spotify ou Apple Podcast pour des podcasts?
Pour des podcasts, je suis pas trop de podcasts à part celui de Patrick, donc non. Non. Mais sinon, en fait, c'est ce que disait Patrick, même dans son message pour appeler la communauté à le soutenir. C'est qu'en fait, si tu trouves un intérêt pour toi, ça vaut le coup de payer. Tu vois, si tu as un retour quelque part, ça te fait gagner du temps, si tu apprends des choses, si ça t'enrichit avec de la connaissance, bah ouais, carrément. C'est pour la même raison qu'on achète des livres, c'est pour la même raison qu'on prend des abonnements à des services de vidéo, de formation, trucs comme ça, hein, c'est pareil.
C'est la même proposition de valeur, c'est sûr.
C'est ça.
On va continuer un petit peu avec notre panorama des entreprises de la tech qui s'en mettent plein les poches. Alors Google, c'est un des rares qui, lui, avait un petit peu baissé au plus fort de la pandémie en 2020. Bon, seulement 2%, hein, rassurez-vous. Un chiffre d'affaires de 55,3 milliards de dollars, des revenus de plus de 17 milliards. Bon, l'augmentation n'est pas pharaonique, mais il se porte évidemment très, très, très bien. On a des informations un petit peu pour la première fois de YouTube, pour qui on a des évaluations un peu pour la première fois. On en a eu en 2020, on avait identifié 15 milliards, ce que rapportait YouTube, ce serait 15 milliards, ça devrait aller mieux en 2021, tout va bien de ce côté-là. Et du côté de Google, un point qui est intéressant à souligner, c'est l'augmentation des charges de rémunération. En gros, ils ont pas mal augmenté leurs effectifs d'à peu près 10%, donc forcément, ça leur coûte plus cher. Mais ces coûts ont été complètement équilibrés par les économies liées au télétravail. On sait que Google s'installe durablement, probablement dans un modèle hybride. Alors, j'ai eu des échos en France, visiblement, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas aux États-Unis et globalement à travers le monde, ils doivent s'installer dans un modèle hybride télétravail présentiel. Et puis pour terminer cette petite fenêtre Google, rendez-vous dans quelques jours, Patrick vous en reparlera, après le 18 mai, la Google I.O. dans laquelle il devrait y avoir plein d'annonces qui ont commencé à être teasées, forcément. Donc bon, Android 12, on est plutôt au fait de ce qui devrait arriver, une évolution dans la continuité. Pas mal de choses autour de Google Assistant, de la domotique, un Pixel 5A 5G et peut-être un Pixel 6 avec une puce maison. L'écho du M1 arriverait-il chez Google? Va savoir. Patrick, est-ce oui, que bah tu attends cette annonce avec impatience?
Je l'attends surtout pour l'idée que, je ne me souviens plus du nom de code de cette puce sur laquelle travaille Google depuis longtemps, mais c'est ça qui est fascinant, l'idée que Google se mette à développer ses propres puces. Alors, si je ne m'abuse, il le faisait déjà pour les serveurs, c'est pas, je vais dire des bêtises, les Tensor Core, je crois, pour les serveurs, en particulier pour l'intelligence artificielle, mais là, pour des produits de consommation grand public, ça serait évidemment c'est pas forcément parce qu'Apple l'a fait qu'ils vont le faire aussi. Peut-être que c'était une conclusion similaire à laquelle ils sont arrivés parce qu'ils avaient les mêmes problématiques à la base. Mais c'est une société de plus qui va se mettre à faire ses propres puces à partir des modèles ARM pour ses produits de consommation grand public. Finalement, ça a l'air d'être la mode pour tout le monde, quoi. Et c'est un événement hyper important si ça se produit. Le fait qu'il y ait de nouveaux pixels, c'est aussi, je ne vais pas dire surprenant, mais on n'aurait pas été surpris s'ils avaient interrompu la gamme, parce qu'on avait vu depuis quelques années qu'ils ne savaient plus trop où ils voulaient aller avec leurs pixels, visiblement. Donc le fait qu'il y en ait encore un nouveau est quand même... alors on espère que ça ne sera pas le dernier, mais c'est pas surprenant, mais c'est notable, voilà.
Corben, au-delà des résultats, il laisse pas trop de place à des commentaires complémentaires, mais j'ai le sentiment que de ce que je perçois de ton suivi, t'es pas forcément hypé, comme on dit, par les grandes annonces telles que celles qui sont planifiées par la Google I.O., la présentation Apple dont on parlait. Est-ce que ces keynotes, elles ont perdu de l'intérêt pour toi et ces présentations, elles représentent moins de temps de ta veille de ton côté?
Ça se ressent tant que ça. non, mais en vrai, moi je m'ennuie, hein, pour rester poli, on va dire ouais. Ça comme ça, avec ces trucs-là, parce que c'est juste des évolutions, si tu veux, mais il y a rien d'innovant. Enfin, il y a forcément d'innovation si tu regardes dans les détails, mais globalement ça change pas la vie, quoi. Tu parles du nouveau Pixel, ok, les 5G, c'est cool, merci, au revoir, tu vois. Enfin, ça va pas révolutionner. Alors, la 5G, ça peut révolutionner des choses, mais si tu veux, c'est l'évolution naturelle des technologies. Il n'y a pas vraiment d'innovation, je trouve. Donc, je m'ennuie un peu, moi, perso.
J'irais même plus loin. Moi, je dirais que dans le cas de Google spécifiquement, ils ont tellement passé en retrait toutes leurs innovations, pas de leurs innovations, mais leurs présentations Sur les pixels, il y a eu des choses intéressantes de temps en temps, mais même ça, ce n'est pas aussi, on va dire, enjolivé que peuvent l'être des présentations d'autres sociétés comme Samsung ou Apple. Et puis en plus de ça, Android est vraiment devenu une machine qui roule et ils ne présentent presque plus les nouvelles versions d'Android avec des nouvelles fonctionnalités. On a l'impression qu'ils se sont dit « c'est bon, ça tourne, pas la peine de s'emmerder ». Et donc, c'est forcément moins excitant que les présentations d'Apple, dans lesquelles ils mettent plus les formes en plus.
Oui, il y a ça, mais surtout, surtout pour Google, parce que tu vois, Apple avec leur M1, c'était un peu plus hypant, comme dit Guillaume. Donc forcément, voilà. Quand il y a de la nouvelle technologie, moi, ça me plaît. Après, quand c'est juste des repackaging de technologies existantes ou des évolutions, c'est sûr que ça ne me parle pas trop.
Eh bien, écoute, peut-être que ça va être pareil pour Facebook, business as usual, croissance impressionnante quand même, de 48% de son chiffre d'affaires qui s'établit à 26 milliards de dollars. Ils vont extrêmement bien eux aussi. La population qui se connecte à Facebook continue de croître. Alors, soit ça peut être des faux comptes, peut-être que les chiffres sont à interpréter, mais là où on pensait que Facebook commencerait à perdre de plus en plus d'abonnés ou d'utilisateurs, il cumule 2,5 milliards de personnes chaque mois en augmentation de 10% sur
2,85 même. Rendez-vous compte. 2,85 milliards d'utilisateurs mensuels, 1,88 utilisateurs quotidiens, mais 2,85 milliards d'utilisateurs mensuels, c'est complètement fou.
C'est les superlatifs qui nous manquent maintenant à force qu'on dise qu'ils battent leur record, c'est certain. Ils veulent évidemment diversifier leurs activités. C'est un petit peu la teneur des propos qu'ils ont tenus dans la présentation de leurs résultats autour du commerce électronique, de la réalité virtuelle et augmentée. Par contre, un petit point autour de l'actualité de Facebook à souligner, c'est que évidemment, ils continuent à communiquer beaucoup autour de la mise à jour d'iOS 14.5. Alors, on a beau dire qu'iOS est un petit segment, j'ai l'impression quand même que les choix d'Apple sur le système d'exploitation ont donné beaucoup envie à Facebook de réagir. On a eu des échos de la part de Facebook très alarmistes sur ce qui pourrait se passer suite à la mise à jour de l'App Tracking Transparency qui a été mise en place donc par Apple sur la dernière mise à jour. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils tiennent des discours qui sont parfois assez contradictoires. La communication de Facebook n'est jamais très évidente à suivre, mais en tout cas, avant la mise à jour et dans les jours qui suivent la mise à jour, on peut s'attendre à une catastrophe en termes de fonctionnement publicitaire, notamment pour les petites entreprises qui utilisent Facebook pour faire de la publicité. Et ensuite, ils nous disent que finalement, ils vont pouvoir y arriver, ils vont trouver d'autres techniques pour gérer les ciblages publicitaires sans aucun problème. On peut d'ailleurs citer au passage une étude qui dit que 75% des Européens veulent conserver la publicité ciblée sur Internet pour éviter de payer des services. Les gens n'ont pas forcément envie de payer des services pour tout et n'importe quoi, et peut-être pas pour Facebook. Je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion il y a de ça des années, Patrick, sur qu'est-ce qui se passerait si Facebook devenait payant. Et le petit clin d'œil, justement, c'est qu'il commence à changer la manière dont il communique auprès des utilisateurs Facebook en disant « aidez-nous à maintenir Facebook gratuit ». Auparavant, c'était aidez-nous en gros à contrer cette mise en œuvre d'iOS qui va gêner le fonctionnement des entreprises et qui va les pénaliser sur le plan de la publicité. Mais maintenant, ils sont encore plus alarmistes. Ils disent aidez-nous à maintenir Facebook gratuit. Ils affichaient jusqu'en 2019 sur la page d'inscription que c'était gratuit et que ça le resterait pour toujours. Est-ce que Patrick, ils abusent de leur communication et veulent nous faire peur par tous les moyens, ou est-ce que tu penses qu'ils envisagent sérieusement que si vraiment ça va trop mal, ils vont nous faire payer Facebook? Oui.
Disons que je veux jamais dire jamais. Peut-être qu'à un moment, ils incluront une option payante. On l'avait évoqué, comme tu le disais, depuis des années. On se demande si ça serait possible pour Facebook. Là, je crois que c'est clairement un artefact de communication. On l'a beaucoup vu circuler, ce message, sur Twitter notamment. En réalité, c'est dans le pop-up qui demande l'accès aux informations personnelles qui est maintenant nécessaire sur iOS, il y a une des petites lignes en bas qui est « Vous nous aidez à garder Facebook gratuit » en plus des, disons, deux ou trois autres arguments qui sont mis en avant, qui sont « On vous montrera des pubs personnalisées » parce qu'il y aura des pubs de toute façon, mais là, ça sera des pubs personnalisées pour vous, donc des trucs qui vous intéressent, a priori. Et puis l'autre argument, c'est « Vous aidez les sociétés qui se basent sur la pub pour atteindre leur clients potentiels. » Donc, c'est genre les avantages du fait de nous donner vos informations, c'est entre autres le fait de nous aider à garder Facebook gratuit. Je crois que c'est pas un abus de langage, mais enfin un abus de communication. Oui.
Ouais. Non, je disais, il y a un truc marrant là qui fait un peu écho à ce qu'on disait au début avec les procès Apple. Là, c'est que il y a le CFO là, le directeur financier de Facebook, qui a communiqué en disant que, qui a laissé sous-entendre un peu qu'Apple, avec ses restrictions sur iOS, jouait pas dans le même cours que les autres éditeurs, que Facebook, etc. Et que voilà, les éditeurs étaient bloqués, Facebook est bloqué sur pas mal de choses, et Apple, eux, gardent sous le coude ces API privées qui, finalement, bénéficient à Apple et permettent d'exploiter des choses en plus que les autres n'ont pas, et donc d'avoir un avantage aussi concurrentiel sur ses propres outils. Et donc, ça me fait penser à ce qu'on disait au début de l'émission avec les procès. Il y a peut-être un moment, peut-être que Facebook va faire un petit procès à Apple en disant monopole au niveau de tes API, tu vois, on n'est même plus sur les services en tant que tel, c'est carrément sur les API. Et voilà, il faut que tu ouvres tes API à tout le monde, ou alors tu utilises les API les mêmes que tout le monde. Quoi.
Ouais, c'est encore un des éléments. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit dans la tech en ce moment, il y a une histoire qui est liée à Apple, et ça montre à quel point, d'une part, ils sont présents dans de nombreux domaines différents. C'est le cas de toutes ces sociétés, mais peut-être encore plus le cas d'Apple, je ne sais pas si encore plus, mais clairement le cas d'Apple. Et puis, l'autre élément qui fait qu'on en revient toujours à Apple, c'est qu'ils ont un business model différent et qu'ils ont fait des choix différents pour faire de l'argent. Et le premier d'entre eux, c'est qu'ils ne sont pas basés sur la publicité, ce qui est complètement à l'encontre des géants, j'allais dire, de tous les autres, GAFA, mais ce n'est pas forcément le cas. Amazon un petit peu moins, Microsoft beaucoup moins, mais c'est quand même notable, ce combat-là se base notamment sur la publicité. C'est quand même un peu fort de café, je dirais, d'entendre Facebook dire « Ah bah oui, vous avez un domaine privé ». C'est pas faux, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller voir un truc sur Facebook ou Instagram sans avoir créé un compte et vous êtes inscrit. Vous avez une page, pas toujours, mais une fois sur deux, il y a une page complètement, c'est une page d'accueil genre inscrivez-vous, quoi. On peut rien voir, en particulier sur mobile, si on n'est pas connecté à son compte. Donc voir Facebook qui dit sur toute cette histoire, la manière dont Facebook s'est plaint était un petit peu ridicule. Maintenant, la réalité aussi que ça fait remonter en surface, comme tu l'as dit, Guillaume, et comme ils le disent en fait eux-mêmes dans ce message, c'est qu'on a compris aussi la valeur de la publicité qui permet d'accéder à certains services gratuitement, entre guillemets. Et là où le slogan des années 2010 était « si c'est gratuit, c'est toi le produit », c'était une réaction au fait que tout était gratuit et qu'on était le produit partout, même si c'est un petit peu un abus de langage. Aujourd'hui, que les choses se recentrent un petit peu grâce au business model d'Apple et à l'action d'Apple, peut-être qu'en les recentrant, on se rend compte que oui, c'est vrai que si c'est gratuit, c'est nous le produit, ok, très bien, mais il n'empêche que l'autre extrême, rien n'est gratuit, n'est pas forcément préférable non plus. C'est un équilibre qu'il faut trouver, pas forcément aller de 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Parce que si rien n'est gratuit, si rien n'est accessible grâce à la publicité, ce qui n'arrivera pas, mais c'est un exercice intellectuel intéressant à faire, si rien n'est accessible grâce à la publicité, la situation sera, comme on en a parlé à plusieurs reprises, dommageable aussi, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas payer pour tout, quoi.
Encore une fois, ce que ça illustre, ce qu'on souligne, c'est à quel point le procès, vous avez compris que c'était le truc incontournable en ce moment, va conditionner beaucoup de choses, parce que tu parles, Corben, d'un procès de Facebook que pourrait intenter face à, face à Apple sur les API, bah, je suis à peu près persuadé que selon les conclusions du procès en cours, il pourrait y avoir des décisions ou au contraire fermer la porte à des réflexions de ce type.
Moi je crois que Facebook ne va pas se risquer à ce genre de choses parce qu'ils sont déjà dans des situations suffisamment précaires dans beaucoup de domaines. Là, on met les feux des projecteurs sur Apple. Je crois que s'il y a une société qui est un petit peu plus mal considérée, c'est peut-être Facebook. Donc,
ouais, pour reprendre l'image de tout à l'heure, c'est la teigne de la cour d'école qui embête tout le monde et qui subitement se plaint d'être harcelée. Bon, c'est pas très crédible. Un dernier tour de piste. Il nous manquera Amazon. Hein, on vous laissera actualiser les informations dans les futurs épisodes. Mais donc Microsoft, pour dire là aussi, rassurez-vous, ils vont très 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 bien.
J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur pendant un moment.
Avec Azure qui leur donne évidemment des ailes en progression de 25%, Office, LinkedIn, la partie bureautique professionnelle qui est très à l'aise, et surtout, mais là aussi tu en reparleras probablement dans le rendez-vous jeu, 5 milliards et plus 50% pour la partie Xbox, waouh, énorme. Mais il y a d'autres infos incontournables à souligner dans cet épisode autour de Microsoft, à commencer par le fait que Microsoft réfléchit à changer la police utilisée par défaut dans Office, et oui, Calibri va vivre peut-être ses derniers jours, ses dernières semaines, ses dernières années en tout cas, et va avoir une police de substitution. Juste ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça reflète la philosophie de Microsoft. Ils ont commencé à montrer les futures polices qui sont envisagées. Donc ça aussi, il y a une petite démarche d'ouverture qui est sympa, un petit clin d'œil. Et puis Patrick, j'ai vu que tu avais tweeté sur le sujet. Je sais que c'est la minute people qu'il faut absolument qu'on relaie dans cet épisode. Tenez-vous bien, Bill Gates et Melinda Gates disent qu'ils vont divorcer tout simplement et qu'ils vont mettre fin à leur mariage. Petite larmichette, Patrick ?
Steve. Ouais, alors d'abord, je voudrais dire à tous les fans de police de caractère que, comme moi, c'est un événement, et événement important. Et je pense qu'on ne prête pas assez attention à ce qu'expriment les polices de caractère. Personnellement, je crois que c'est Bierstadt que je préfère dans les 5 polices préférées. Très, très classique.
Allez voter dans les commentaires de l'épisode sur Springsteen.fr.
Mais tu sais, c'est marrant cette histoire de divorce de Bill et Melinda Gates. Moi, je ne suis pas du tout people. Et quand je vois passer des tweets, machin et machine ont divorcé, truc et bidule sont en couple, ou même, je vais avouer, même les annonces de décès de personnalités publiques, c'est très très rare que ça m'affecte. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'annonce du divorce de Bill et Melinda Gates, c'était un petit peu, je ne vais pas vous dire que j'ai versé une larme, hein, quand même pas.
Il y avait peut-être d'autres sources de préoccupation.
C'est ça, j'ai un petit peu, comme vous l'avez entendu, il y a le petit qui court partout. Mais je me disais, ah merde, et je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que la fondation Bill et Melinda Gates a fait tellement de travail important, peut-être parce que Bill Gates a tellement œuvré à nous insérer de la 5G dans les bras avec les faux vaccins, ce genre de choses. Non,
ah non.
Plus sérieusement, parce qu'il a tellement... Enfin, vraiment, il faut... Bill Gates est passé d'un mania de la tech à... Un érudit qui essaye de résoudre les problèmes du monde de manière les plus concrètes et les plus efficaces. Il y a des choses hyper intéressantes qu'il fait dans différents domaines. C'est une personne évidemment extrêmement intelligente. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, le fait qu'ils annoncent leur divorce, je me dis « Oh merde, le pauvre Bill Gates, ça doit être dur pour lui quand même. » Alors, bon, on ne va pas plaindre Bill Gates, hein, mais je me dis « Ah, c'est couillon quand même, ça aurait été bien qu'il soit heureux en amour, tu vois. » Je ne sais pas, ça m'a un peu affecté, je n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais ça m'a plus... Enfin, vraiment un tout petit peu. Ouais. Hein. C'était plus le parallèle entre le fait que les sections people généralement m'intéressent pas du tout, et là ça m'a fait
mais moi je pense peut-être savoir pourquoi, parce que Bill Gates, c'est quand même on va dire pour nous les geeks, c'est un peu l'incarnation du geek au sens on va dire un peu péjoratif du terme, même s'il a fait fortune évidemment, mais je veux dire tu te dis un mec comme ça, tu le croises au lycée, il s'intéresse qu'aux ordi, il trouvera jamais de meuf, et voilà. Et là, il trouve Melinda, ils font 27 ans ensemble, et quelque part, tu dis c'est inespéré pour un mec comme lui, comme nous en fait, tu vois un peu ce que je veux dire, pour tous les geeks à lunettes, qui n'ont pas leur chance parce qu'ils passent leur vie dans les ordinateurs. Et là, tu dis lui, il avait 27 ans de bonheur, et là, ça se termine en échec. C'est un peu un échec pour tout le monde en fait, pour nous.
Oh, c'est déjà pas mal, 27 ans de bonheur.
Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas si ça peut être considéré comme un échec, effectivement.
C'est pas mal, mais on aimerait tellement que ça ait duré jusqu'au bout, tu vois. Et finalement, non, ça tient pas. Donc, voilà, moi, c'est pour ça.
Peut-être, peut-être, oui. Et puis, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils s'arrêtent maintenant, tu vois, et qu'ils se quittent bons amis plutôt que les choses ne dégénèrent. Et d'une certaine manière, ce que tu dis aussi, c'est très vrai. Il y a, on en revient systématiquement à cette histoire, mais il y a vraiment une mystique qui s'est développée entre Bill Gates et Steve Jobs, qui sont les deux héros de l'ère geek, qui sont évidemment très différents. C'est un petit peu Son Goku et Vegeta, tu vois, c'est les deux qui étaient rivaux et qui finalement se sont retrouvés dans une interview mémorable quelques années avant la mort de Steve Jobs et qui ont fait notre histoire, en fait, et qui reflétaient notre histoire. Donc, peut-être que c'est parce que ça fait beaucoup plus partie de ma vie que les stars de Hollywood, que ça m'affecte un tout petit peu aussi. Il y a peut-être un peu de ça. Ouais.
Mais après, ça se fait sans douleur, ça se fait sans... Ça a l'air de se faire sans violence.
On sait pas, hein, mais...
On sait pas, mais bon, ça a l'air d'être... Moi, je pense que, tu sais, ça doit faire un moment... Bill Gates, faut se le coltiner, quand même. Hein. Le mec, c'est un nerd plus... Enfin, tu vois, il doit pas être simple à vivre. Donc, je comprends.
Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Bill Gates sur Netflix? C'est vrai que ça a pas l'air d'être quelqu'un d'hyper fun au quotidien. Très intéressant.
mais passionnant. C'est le genre de personne dont le monde manque, quoi. Ou manque, je sais pas. Il y en a plein, des scientifiques, des gens hyper intelligents. Mais effectivement, Inside Bill's Brain est un documentaire absolument fascinant. Alors, il faut évidemment le prendre avec son petit grain de sel, hein, mais parce que c'est un truc qui a été fait avec son accord. Mais c'est vraiment passionnant et on y apprend toutes ces initiatives, notamment ce qu'il espérait faire avec des centrales nucléaires modernes, dont les efforts ont été évidemment arrêtés par la catastrophe de Fukushima, parce que le nucléaire était plus trop en odeur de sainteté. Mais c'est vraiment fascinant de voir à quel point il s'intéresse aux différents énormes problèmes que peut rencontrer notre société. On l'a suffisamment noté au début de la pandémie. Il avait signalé il avait essayé de sonner l'alarme pour dire l'un des gros problèmes de notre société pourrait être une pandémie. Et c'était des années avant que la Covid-19 n'arrive. Il y a plein de sujets comme ça qu'il essaye de régler. Et le nucléaire moderne, il semble indiquer, ensuite il faudrait avoir peut-être des avis différents, mais il semble indiquer que les centrales nucléaires ont été conçues, qu'on utilise aujourd'hui, c'est des conceptions qui ont été faites dans les années 50 à 70, et que si on en faisait aujourd'hui, ça serait beaucoup, beaucoup plus sûr, et qu'on pourrait même utiliser, recycler les matériaux usés des centrales, enfin les rods, je ne sais plus comment ça s'appelle. Plein de choses comme ça. Il est un petit peu dans cette catégorie de personnes et j'espère que les connaisseurs de mes émissions vont être heureux parce que ça me permet de rementionner ce livre que je mentionne à absolument tous les épisodes. Le livre Factfulness de Hans Rosling, c'est cette catégorie de personnes qui sont un atout précieux pour nos sociétés. Et du coup, c'est dommage qu'ils divorcent, quoi. Voilà, c'est...
On en est là. Mais bon, gueule de la portion alimentaire.
Il y a aussi, en écho hein, avec la séparation de Jeff Bezos avec sa femme, il y a aussi ce que ça peut représenter d'un point de vue possession de société, départ, très bien, donc ça c'était sur l'avis séparation, j'allais dire avis de décès, quand même pas, avis séparation, et puis pour les nostalgiques, vous apprendrez que Yahoo et AOL sont vendus une nouvelle fois. Ça n'arrête plus. Hein. C'est plus forcément le truc qu'on s'arrache. Le prix baisse au fur et à mesure. Donc, on parlait de Bill Gates. Peut-être que ça fait écho à des époques communes de votre vie de technophile.
Encore 10 ans et on pourra se racheter Yahoo nous, à titre perso.
Pour un Bitcoin.
c'est hautement probable. Et puis, juste pour faire un dernier clin d'œil, parce qu'on parlait...
Il faut signaler quand même. Yahoo et AOL ont été vendus pour 5 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, un fonds d'investissement. Et au plus haut de leur valorisation boursière, autour des années 2000, ils valaient 125 milliards quand même. Ce qui était quand même un passé de 125
c'est
milliards
la dégringolade.
À 5 milliards en 20 ans. C'est bon, voilà.
Ça fait mal, ça fait mal. On parlait du documentaire de Bill Gates, ce sera le dernier élément, hein, juste pour souligner que s'il y en a un...
Inside Bill's Brain, je le redis parce que je suis sûr que des gens vont me poser la question.
Je ne l'ai pas en tête en plus.
Inside Bill's Brain, très intéressant.
Qui est en plusieurs épisodes d'ailleurs, je crois. Donc juste pour conclure, parce qu'on a dit que les entreprises de la tech, on a l'habitude de mentionner, sont en excellente forme, on pourra quand même conclure sur le fait qu'il y en a un qui déçoit tout le monde, a priori c'est Netflix. Ils n'ont pas fait croître leur base d'utilisateurs suffisamment et donc ils sont en dessous de leurs prévisions. Dommage. Ça fait un petit peu le tour des sujets que j'avais prévu de partager avec vous dans cet épisode du Rendez-vous Tech. On a aussi des sujets autour des jeux vidéo, mais je pense que tu les partageras bien mieux que moi, Patrick, dans le Rendez-vous Jeu. C'est peut-être plutôt le moment où on va pouvoir rappeler aux gens où on peut vous retrouver, vous qui êtes voilà, des chroniqueurs anecdotiques qu'on voudrait mieux connaître. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Corben ?
Eh bien, moi, sur corben.info, le blog, hein, et sur Twitch aussi, corben.fr.
Voilà. Merci beaucoup Corben, et toi Patrick, je suis sûr que tu as un bel avenir dans le podcast, tu devrais peut-être envisager de développer ça, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Écoute, sur notepatrick.com, tout simplement pour avoir tous les liens vers tout ce que je fais, puis je suis notepatrick à peu près partout, et donc on se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, je vais faire un petit peu service minimum, parce que, alors je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais ma femme a une convalescence assez compliquée, et on a une petite qui est... qui a des gros problèmes de digestion. Et bref, enfin, tout ça fait que je vais faire service minimum. Mais service minimum, ça sera évidemment les podcasts. Ce qu'il y a autour sera peut-être un petit peu mis entre parenthèses pendant quelques semaines encore. Mais les podcasts seront là. Donc, mardi, rendez-vous tech. Jeudi, rendez-vous jeu. Si tout va bien, on sera là toutes les semaines.
J'imagine les commentaires. On en avait marre de Guillaume, il était temps que tu reviennes. En plus, ils font que parler d'Apple quand ils font des émissions, ça va pas du tout. Merci beaucoup, Patrick, de m'avoir laissé animer ton émission. Je te rends les clés. J'espère que le studio est propre. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr pour retrouver les différentes prises de parole que j'ai moi aussi en podcast. Et puis, merci beaucoup de votre écoute du Rendez-vous Tech. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous.